Frères et sœurs, sans nous en apercevoir, nous entrons dans une période particulière de la vie liturgique, de la liturgie, puisque nous arrivons petit à petit au terme de l'année liturgique qui va ensuite nous faire rentrer dans le temps de l'Avent, de la nouvelle année liturgique. Et donc, sans s'en apercevoir, nous entrons dans une phase particulière puisque dans les trois dimanches qui viennent, enfin, à partir d'aujourd'hui, les deux dimanches qui vont suivre, eh bien, nous allons entendre des thèmes qui nous tournent vers les réalités du ciel. Une invitation à se souvenir de l'objectif de notre vie, de ce que le Seigneur souhaite nous faire vivre au-delà même de notre vie terrestre. Les chrétiens des premiers siècles avaient une conscience très très vive de cette réalité et ils avaient aussi une conscience très vive de l'imminence de la venue du Christ, c'est-à-dire qu'il devait arriver, il allait arriver d'un moment à l'autre, il allait se manifester au monde entier, c'est la fin de l'histoire avec cette manifestation définitive dont nous parle l'Écriture. Et donc, il allait le faire, et ils étaient convaincus qu'il allait le faire très vite et bientôt. Le temps passant, les chrétiens ont vu que finalement le Seigneur avait un peu de temps. Et d'ailleurs, dans l'épître de Pierre, eh bien, il en est question. Hein. Pierre, il dit non, il ne tarde pas, contrairement à ce que certains disent. Jésus ne tarde pas à venir, mais il attend le moment propice, c'est-à-dire là où suffisamment où tout le monde aura pu se convertir, se tourner vers Dieu, et pour revenir, c'est à l'heure que Dieu veut, comme il le souhaite. Alors le danger, c'est qu'avec le temps qui passe, eh bien, on s'installe, on n'y pense plus, et on vit comme si, finalement, il n'y avait plus le ciel, comme si notre vie n'était faite que pour vivre sur terre et que finalement notre foi chrétienne serait une manière de la vivre, de cette vie terrestre avec une certaine morale, une certaine approche de la vie, avec une certaine espérance quand même, hein, en sachant que Dieu est là, bon, et puis que finalement s'il y a une vie éternelle c'est pas si mal, etc. Mais nous ne sommes peut-être moins tendus vers cette réalité de l'avènement du Christ, cette réalité du ciel. Et donc, depuis ces derniers siècles, eh bien, les philosophes et puis aussi la science a fait de tels progrès qu'on se dit que finalement, on va pouvoir, on peut très bien vivre sans cette espérance du ciel et on va pouvoir, grâce à la science, résoudre tous les problèmes qu'on a sur cette terre et que finalement, le paradis, eh bien, il n'est pas au ciel, il est sur terre. Enfin, tout au moins, on va pouvoir le faire. Hein, d'ailleurs, même les philosophes athées, c'est ce qu'ils ont souhaité faire, hein, créer un paradis sur terre. Et en fait, ils ont créé des enfers. À chaque fois qu'il y a eu des essais, encore aujourd'hui, c'est des enfers partout où l'athéisme est imposé de façon autoritaire. Eh bien, c'est l'enfer qui s'installe. Parce que l'enfer, finalement, c'est l'absence de Dieu. Voilà. Encore aujourd'hui, il y a cette tendance. Il y a un paradoxe. Puisqu'au 19e siècle et au 20e siècle, au début du 20e siècle, eh bien, les scientifiques étaient majoritairement scientistes, c'est-à-dire ils considéraient que la science allait tout expliquer, tout résoudre, et que finalement Dieu était une manière de se rassurer devant l'inconnu, devant les choses qu'on ne pouvait pas expliquer, hein, et de se rassurer devant la vie. Et encore aujourd'hui, le mouvement scientiste continue. Hein, il suffit de penser que Google a annoncé il y a quelques années que l'homme qui allait vivre 1000 ans était déjà né. L'air de dire, voilà, la vie éternelle, on va la faire sur Terre. Donc il y a toujours cette manière d'envisager les choses. Et il n'est pas impossible que la science puisse prolonger la vie. Hein, mais comme il répondra le pape Benoît XVI à l'époque, hein, parce que le pape Benoît XVI, l'air de rien, dans une homélie, peu après que Google avait fait cette déclaration, avait dit « Si l'homme vivait trop longtemps, l'homme souffrirait de vivre trop longtemps sur Terre. » C'est-à-dire qu'il serait malheureux, parce que sa vie sur Terre ne peut pas lui suffire. Il n'est pas fait que pour ça. La vie sur Terre est un passage, est une étape de sa vie, mais c'est parce qu'il est promis à une vie éternelle et une vie avec Dieu. Alors on vit un paradoxe, parce que à la fois il y a ce courant scientiste, et puis en même temps, on voit de plus en plus de scientifiques qui se disent et qui disent que plus la science avance, plus les limites se repoussent et plus ils sont émerveillés de l'organisation de l'univers. À l'exception peut-être des biologistes qui, eux, font des progrès tels qu'ils se disent on va pouvoir de fait prolonger la vie, etc., etc. Mais les autres scientifiques, et j'entendais encore récemment, ce qui m'a fait penser d'ailleurs à vous partager cette réflexion, c'est Hubert Reeve qui encore récemment dans une radio disait que lui, durant toute sa vie, il était émerveillé par ce qu'il découvrait et que pour lui, il est devant cette cohérence, cette beauté, cette cohérence de l'univers, eh bien, il se dit il y a une sagesse. Il y a une sagesse qui nous dépasse. Et on voit de plus en plus de scientifiques qui sortent du scientisme pour dire, alors ils ne deviennent pas, tout au moins, par exemple, Hubert Reeve ne dit pas qu'il est croyant, mais il laisse entendre que Dieu, il peut y avoir quelque chose qu'on pourrait appeler Dieu. Il ne le dit pas comme ça parce qu'il aborde la manière un peu différente, il prétend que, il dit que c'est simplement que notre intelligence est trop faible pour pouvoir expliquer. Mais il dit qu'il y a quelque chose, il y a une sagesse qui dépasse tout cela et qui l'interpelle. Alors, donc, on a un paradoxe parce qu'on voit des scientifiques qui, le scientisme, on en sort, on voit bien qu'on est en train de sortir du scientisme, et en même temps, nous vivons dans une société très matérialiste et qui ne vit que pour la vie terrestre, qui ne considère les choses que pour la vie terrestre. Et une société qui donc considère qu'il suffit d'être riche, il suffit d'avoir des progrès scientifiques, il suffit de sortir de la maladie pour avoir une belle vie. Une vie suffisante, une vie suffisamment bien. Et même nous, chrétiens, nous ne sommes pas épargnés, parce qu'on peut s'apercevoir que souvent, notre réflexe est toujours de se dire l'important, c'est quand même, suffit de penser à ce qu'on va dire au nouvel an, on va dire bonne santé, hein, ce qui est très bien d'ailleurs, j'ai rien contre, mais bonne santé, mais l'air de dire surtout, faut pas mourir cette année. Or, nous qui sommes chrétiens, et déjà tout le monde sait qu'on va mourir, puis nous qui sommes chrétiens, on sait très bien que la mort n'est pas la fin de tout. Donc, Dieu veut que nous vivions sur terre le temps qu'il faut, mais la mort n'est pas l'aspect le plus terrible de notre vie, paradoxalement, excusez-moi. Mais il nous faut découvrir, intégrer plutôt dans notre foi, dans notre vie, dans notre manière de regarder la vie, que la mort est un passage et que nous sommes invités à nous y préparer. C'est justement ce que l'Évangile nous dit aujourd'hui. Les pères de l'Église, en voyant cet Évangile, font se dire « Qui sont les vierges sages et les vierges insouciantes ?» Les vierges insouciantes, ils diront, ce sont celles... Alors déjà, toutes les vierges ont leur lampe qui est allumée. Tout le monde a sa lampe. Tout le monde brille. Et ils disent, les pères de l'Église, ils disent, les vierges insouciantes, ce sont celles qui ne cherchent qu'à briller pour ce monde, qui ne cherchent qu'à briller pour cette vie maintenant, qui ne se préoccupent pas de après. Ce sont celles qui vont accumuler et qui recherchent en général les compliments du monde, qui cherchent à déjà briller, mais dans les deux sens, c'est-à-dire de vivre et aussi à briller, comme on aime bien tous briller les uns devant les autres, pour avoir quelques compliments, pour avoir des reconnaissances. Donc il y a celles-ci, ce sont les insouciantes. Et ils disent, les prévoyantes, les pères de l'Église diront, les prévoyantes, c'est celles qui, ont leur lampe allumée aussi, mais... L'huile qu'elles prévoient, elles en prévoient plus, parce qu'elles ne font pas que briller pour cette terre. Et d'ailleurs, même ça ne les intéresse pas trop, elles brillent, parce que c'est la vie, mais en fait, elles veulent briller pour la vie éternelle. Si on prolongeait un peu la symbolique, on pourrait penser au cierge du baptême, etc. C'est-à-dire qu'elles veulent se soucier aussi, elles ne se soucient pas des honneurs et des réussites, mais elles veulent vivre en fonction de la vie futur. Et c'est une interpellation que Jésus nous fait. C'est une interpellation pour ne pas briller pour rien. D'ailleurs, pour briller pour s'éteindre. Mais de briller pour la vie future, pour notre vie éternelle. Et la finale de l'évangile nous invite à ne pas perdre de temps pour commencer à produire de l'huile, non pas que pour cette vie terrestre, mais pour la vie céleste. Il faut faire les deux. Il faut produire de l'huile pour les deux, pour pouvoir avoir de l'huile pour faire ce grand passage que nous serons invités un jour à faire. Alors on peut se dire, mais pourquoi les prévoyantes ne partagent pas avec celles qui sont insouciantes? Ce n'est pas très charitable, surtout que maintenant on se dit qu'il faut, c'est les chrétiens qui sont théoriquement les prévoyants. Et bien simplement, disent les pères, c'est parce que après le grand passage, alors le sommeil c'est le symbole de la mort, ça c'est biblique, sommeil c'est le symbole de la mort, c'est le symbole du passage. Et en fait, après le sommeil, après la mort, en fait, il est trop tard, nous pouvons partager sur cette terre. Tout se joue maintenant. Nous pouvons partager entre nous maintenant. Mais après la mort, il est trop tard. Les comptes sont faits, on va dire. Et donc, voilà, il n'y a plus cette possibilité-là du partage comme on peut le vivre maintenant sur terre. Et c'est pour ça que nous sommes invités à partager dès maintenant. Et donc, il nous faut prendre conscience que maintenant, il nous faut briller, travailler, produire de l'huile pour maintenant et pour demain, et qu'il y a urgence, veiller et prier, car le Seigneur peut revenir bientôt. Si tout va bien, je ne sais pas s'il faut que je m'exprime comme ça. Normalement, je vous disais, nous sommes dans le temps où les liturgies nous font tourner notre regard vers le ciel, vers le but, au-delà de la vie terrestre. Et puis, ça va se prolonger avec le temps de l'Avent, qui va continuer dans cette dynamique. Et puis, à la fin, nous allons vivre la nativité, l'incarnation, le mystère de Dieu qui vient vers nous. Et donc, c'est le prolongement. Mais on ne peut pas exclure, parce que ça va venir bientôt, que le Christ revienne avant, dans la gloire. On ne sait pas quand, donc il peut venir bientôt. Donc, il faut s'y préparer. Il y a urgence. Il faut produire de l'huile maintenant. Demain, ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il nous faut faire. Alors, comment faire? Eh bien, vivre, évidemment, notre vie chrétienne, dans tous ses aspects, et dans ses aspects plus spécifiques, comme quand Jésus nous dit « Veillez et priez ». Mettre toujours cette prière au centre de notre vie. Agissez selon la charité. Avoir une foi agissant par la charité, comme nous dit la parole de Dieu. À nous offrir, à offrir notre vie à Dieu et à nos frères. Voilà. Demandons au Seigneur de ne pas passer à côté de notre vie chrétienne, de ne pas vivre notre vie chrétienne comme ferait un non-croyant, c'est-à-dire en vivant que pour cette vie terrestre, mais demandons de vivre vraiment notre vie chrétienne en produisant de l'huile pour la vie du ciel. Et prions les uns pour les autres. Amen.